Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de notre salon digital Bourse Live, les rencontres, des débats, des conférences, des tables rondes. Et cette conférence, ce matin, pour commencer cette deuxième journée, vous allez voir qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va faire le point pendant une demi-heure sur un phénomène qui nous affecte tous actuellement. Des prix à la pompe, au rayon de supermarché, ce phénomène, bien sûr, c'est l'inflation. Le constat, malheureusement, il n'est plus à poser. L'augmentation des prix n'a jamais été aussi forte depuis des années, des dizaines d'années. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, où allons-nous? Cette inflation est-elle partie pour rester durablement plus forte qu'avant la crise sanitaire? Eh bien, pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous avons un spécialiste du sujet avec nous à distance, Didier Borowski, responsable Global View d'Amundi Institute. Bonjour Didier.
Bonjour Laurent.
Bien sûr, si vous avez des questions pendant cette conférence, vous pouvez les poser sur la discussion publique et nous tenterons d'y répondre. Didier, je l'ai dit dans mon lancement, l'inflation, elle est sur les étiquettes, elle est dans les journaux, elle est à la télé. Et pourtant, je ne suis pas sûr que là, si je demandais dans la rue une définition précise, on puisse me la donner. Est-ce que vous pouvez la faire pour nous, justement?
Bon, alors, en quelques mots, ce qu'on appelle l'inflation, c'est une augmentation généralisée des prix et une augmentation durable des prix. C'est-à-dire, on a en tête, quand on parle d'inflation, un mécanisme qui s'auto-entretient. Alors, j'insiste sur ce point parce que souvent, on a parlé au début de cette crise d'une inflation temporaire. Quand on a une augmentation d'un prix de façon temporaire et qu'on revient au prix initial après quelques mois, ça ne génère pas, en règle générale, un processus auto-entretenu, une dérive sur les prix. En règle générale, là, ce qu'on est en train de voir, c'est une augmentation généralisée des prix à la consommation. L'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie, c'est une perte aussi de confiance dans le pouvoir d'achat de cette monnaie. Je crois qu'il faut rappeler aussi que la monnaie, c'est au cœur de la confiance, est au cœur de la monnaie. La monnaie fiduciaire, ça vient de fides en latin, qui veut dire confiance. Donc, il faut avoir en tête aussi à l'esprit que quand on touche au pouvoir d'achat de la monnaie, on touche quelque part dans la confiance de la monnaie, dans la confiance de son pouvoir d'achat futur, et c'est ça qui perturbe évidemment l'ensemble des relations économiques.
Alors, la confiance dans la monnaie, en même temps, Didier, pendant des années, et on en a aussi beaucoup parlé, les banques centrales, elles ont fait tourner la planche à billets à coup de politique monétaire accommodante. Et on se tenait d'ailleurs, à cette époque, le débat semble maintenant complètement surréaliste, de voir l'inflation rester extrêmement sage, voire on s'inquiétait même de sa faiblesse. Est-ce qu'on a fini par récolter ce qu'on a semé pendant toutes ces années?
Alors, c'est une bonne question, en effet, parce que on garde en tête dans les manuels économiques l'explication de ce qu'on a appelé les monétaristes, qui ont le vent en poupe à la fin des années 70, selon lesquels l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Elle ne s'explique que par une augmentation générale de la quantité de monnaie en circulation, une augmentation, quand elle est plus rapide que l'augmentation de la production, finit par engendrer une augmentation du niveau général des prix durable. Alors, évidemment, ça a été un des freins majeurs à la mise en place, à la suite de la grande crise financière, des programmes d'assouplissement quantitatif où les banques centrales créaient de la monnaie et le risque était d'avoir de l'inflation. Et au final, ce qu'on a observé en pratique, c'est que depuis la grande crise financière, en tout cas jusqu'à une période récente, on n'a pas observé d'inflation sur les prix des biens et services. En revanche, on a vu de l'inflation sur les prix des actifs. Les actifs financiers, les actions, les obligations aussi, et les actifs réels, l'immobilier en particulier. Et évidemment, cette inflation a existé, mais n'a pas concerné la définition restreinte qu'on a de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation généralisée et auto-entretenue des prix des biens et services. Celle-là, on ne l'a pas vu venir. Alors, ceci dit, est-ce que pour autant, l'augmentation des bilans des banques centrales, c'est-à-dire la création monétaire par les banques centrales depuis la grande crise financière de 2008, est-ce qu'elle n'est pas pour partie responsable de l'inflation aujourd'hui? C'est pas impossible, dans la mesure où, en privilégiant les investissements financiers, on a peut-être dissuadé de l'investissement physique en capacité de production, notamment dans le secteur industriel. Et ce qu'on connaît en ce moment, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un rebond de la demande avec une insuffisance de capacité de production. Et ce déséquilibre entre l'offre et la demande est à l'origine de pressions inflationnistes. Donc, je dirais, les banques centrales ne sont pas directement responsables. En revanche, on peut se demander si au cours des 10 dernières années, le régime dans lequel on était entré, c'est-à-dire plus d'investissements financiers au détriment des investissements en capacité de production, d'une certaine façon, n'est pas à l'origine de l'inflation qu'on connaît dans cette crise.
Surtout que il y a cette période dont vous venez de parler, vous venez nous expliquer les différents mécanismes, et puis patatras, il y a la crise Covid, il y a l'économie à l'arrêt, il y a l'interruption de certaines chaînes de production, la longueur de certaines chaînes de valeur dont on se rend compte que finalement, eh ben, c'est compliqué, un redémarrage de l'économie au fur et à mesure de la réouverture, et puis de l'inflation qui arrive assez logiquement, et on nous dit, à cette époque, ne vous inquiétez pas, notamment les banquiers centraux, c'est transitoire.
Oui, je crois qu'il y a eu en fait une forme d'illusion d'optique, ouais. Et ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on a connu, l'économie au cours des 2-3 dernières années, a connu quand même deux grands chocs. Le premier choc, on l'a tous évidemment à l'esprit, c'est le choc lié à la pandémie, pendant laquelle les gouvernements, la plupart des gouvernements des grands pays avancés, ont soutenu les revenus des ménages par des mesures budgétaires. Et puis, au même moment, il n'y avait pas de possibilité de consommer, de sorte que quand on est sorti, hein, je parle de la période juste avant le début de la guerre en Ukraine, quand on est sorti progressivement de la crise du Covid, les ménages avaient une épargne très abondante. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans la plupart des pays européens, et ils ont eu la possibilité de reconsommer, de retrouver un rythme de consommation. Et là, on a trouvé, en effet, on s'est retrouvé dans une situation où beaucoup de demandes, un surcroît de demandes très marqué, à un moment où on avait, comme vous l'avez signalé, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. L'économie mondiale s'était pas entièrement remise des perturbations induites à l'échelle mondiale par la crise du Covid, notamment du côté des pays émergents qui étaient toujours sous contrainte sanitaire. Et ceci a déclenché, en effet, de fortes pressions inflationnistes. On s'est retrouvé avec, traditionnellement, un bon déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre était sous contrainte avec les chaînes de logistique, les chaînes d'approvisionnement sous contrainte, et la demande repartait très fortement, d'autant plus que les revenus avaient été protégés dans une phase où il était impossible de consommer. Et donc, on a vu cette inflation se matérialiser. Et aux États-Unis, bien davantage qu'en Europe, très avancé dans le cycle, on a commencé à voir dès l'année dernière de fortes pressions à la hausse sur les salaires. Oui. On avait, outre-Atlantique, une politique budgétaire très expansionniste, de sorte que là, on a vu le début d'un mécanisme auto-entretenu d'inflation aux États-Unis, bien avant de le voir en Europe.
Alors, on a déroulé le fil de l'histoire et ça nous amène finalement aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit plus que l'inflation est transitoire. Je pense que là, ça y est, il y a eu cette prise de conscience. On l'a dit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui bouleverse notamment le marché de l'énergie. On voit que l'inflation, elle reste forte. Elle est désormais menaçante pour la croissance parce que les banquiers centraux, maintenant, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus à la fois soutenir les marchés, l'emploi, la croissance et juguler les prix. Maintenant, il faut juguler les prix et on a l'impression que c'est désormais leur première priorité.
Oui, alors c'est en effet là où le choc lié à la guerre en Ukraine sur les prix des matières premières, hein, l'impact sur les prix des matières premières, c'est une configuration très différente de celle qu'on a connue avec la crise du Covid. Je rappellerai simplement une chose, avec la crise du Covid, on a eu une chute de la demande globale et une chute de l'inflation. Hein. Le prix du pétrole était même tombé en territoire négatif pendant quelques jours. Là, ce qu'on voit, c'est une augmentation généralisée des prix des matières premières et simultanément un choc sur l'activité économique parce qu'on a un choc sur la confiance, hein, que ce soit la confiance des ménages, la confiance des chefs d'entreprise. Donc, on a des pertes d'activité économique combinées à une augmentation généralisée des prix des matières premières et qui commence à se diffuser à l'ensemble des prix des biens et services. Et ça rappelle l'environnement stagflationniste. Hein. Alors, c'est un terme un peu barbare qui date des années 60.
Sorti des manuels d'économie hein, des années 70.
C'est ça. Alors, il est formé de deux mots, de stag, qui veut dire stagnation, et flationniste pour faire réfléchir à l'inflation induite. On a à la fois une stagnation économique, voire un risque de récession économique, avec contraction de l'activité économique, et d'inflation simultanée. C'est une configuration qu'on n'a pas observée dans les 3-4 dernières décennies. Il faut remonter en effet aux années 70 avec les chocs sur les prix du baril pour observer ce type de configuration. Et comme vous le disiez, ça met évidemment les banques centrales sous pression. Il n'est pas question à ce moment-là de faire le même type d'expansion monétaire que lors de la crise du Covid. Les banques centrales sont bien obligées, de par le mandat, d'ancrer les anticipations d'inflation et de remonter leur taux d'intérêt. On l'a vu aux États-Unis, la remontée est très très vive. La Banque centrale européenne va elle-même sortir des taux négatifs et commencer à remonter ses taux d'intérêt au mois de juillet. Et la question est de savoir jusqu'où elles peuvent aller, ces banques centrales, sans précipiter une récession avec le durcissement généralisé des conditions de crédit. Donc la situation n'a rien à voir, en effet, avec celle qu'on a connue au moment de la crise du Covid, même si on a évidemment des risques de récession non négligeables à court terme. Et puis il y a, avec la guerre en Ukraine, hein, la hausse de
nombre de prix aussi,
de denrées, alimentaires notamment, hein, prix des fertilisants, commence à voir la montée des prix des denrées alimentaires qui affecte les pays avancés, mais aussi de nombreux pays émergents. Il faut bien avoir en tête que ce choc qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un choc très asymétrique. Hein. L'Europe est évidemment la première région qui est touchée. Ouais. L'Europe n'est pas indépendante sur le plan énergétique, contrairement aux États-Unis. Et au sein de l'Europe, le choc est très asymétrique. Il y a évidemment les pays d'Europe de l'Est qui sont les premiers touchés de par leur ancrage commercial avec la Russie et l'Ukraine. Mais il y a à l'intérieur de l'Europe de grandes divergences sur les taux d'inflation parce que les mesures qui ont été prises, les mesures de politique publique ne sont pas toujours les mêmes. Et on voit en France le caractère très efficace du bouclier énergétique qui a permis de limiter l'inflation, même si elle est évidemment très élevée, elle est beaucoup moins élevée que chez certains de nos partenaires commerciaux, par exemple l'Espagne, ou alors évidemment si on va plus à l'Est, ou même plus faible, elle est plus faible en France qu'en Allemagne. Et ça, ça peut s'expliquer par certains types de politiques publiques qui cherchent à limiter la hausse des prix, des prix des matières premières.
Forcément, au moment là où on se parle, le constat, quand je vous écoute Didier, c'est qu'on est revenu dans un monde inflationniste. Et si oui, inflationniste, jusqu'à quel niveau ?
Alors ça, c'est en effet la grande question qui est posée aux économistes. C'est, d'accord, l'inflation n'est pas temporaire, elle va un peu durer, mais quel est le bon niveau d'inflation ? Est-ce qu'on va retrouver des niveaux d'inflation à deux chiffres ? Et est-ce qu'on va rester dans des environnements d'inflation à deux chiffres ?
Alors nous, notre réponse, elle est… On rappelle peut-être, Didier, les objectifs des banques centrales. Au départ, c'est 2%.
Hein, c'est 2% des prix en moyenne, hein, en moyenne à moyen terme. Mais il ne s'agit pas des prix, y compris des prix alimentaires. On sait bien que les prix de l'alimentation et les prix de l'énergie à court terme peuvent énormément fluctuer. Ouais. Donc, il faut regarder aussi la dynamique des prix sous-jacents, entre guillemets, c'est-à-dire hors alimentation énergie. Mais on voit que l'ensemble des prix, comme je l'ai dit, accélère. Et la question est de savoir à quel niveau l'inflation va se stabiliser. Nous, notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas rapidement sur les cibles des banques centrales. Donc, les banques centrales sont évidemment, connaissent là un vrai défi pour rester crédibles. On va se stabiliser probablement sur des niveaux d'inflation qui sont plus élevés du fait de la transition énergétique, du fait qu'il y a une volonté de relocaliser certains pans de production ou de re-régionaliser certains pans de production. Tout cela aura probablement, un prix. Alors, ceci dit, il ne faut pas non plus penser qu'on va rester dans des niveaux d'inflation très élevés. Les banques centrales sont quand même à la manœuvre et souhaitent durcir les conditions monétaires pour ancrer les anticipations d'inflation. Donc, pour répondre à votre question, il faut se préparer à un niveau structurel d'inflation un peu plus élevé que celui qu'on a connu au cours des décennies passées. Ça ne signifie pas pour autant que l'inflation ne sera pas sous contrôle dans les années qui viennent.
Oui, parce qu'il y a quand même… Si on revient là aussi un petit peu en arrière, il n'y a pas des facteurs désinflationnistes. Pendant des années, on nous a expliqué que la mondialisation, la digitalisation de l'économie, c'était de puissants éléments désinflationnistes, voire déflationnistes, c'est-à-dire qui là provoquent carrément une baisse des prix. Ils n'ont quand même pas disparu, ces phénomènes puissants.
Non, je crois que vous avez tout à fait raison de le signaler. Et là, je ferai une analogie avec le monde marin. On fait face à des vents contraires qui sont très violents, c'est-à-dire qu'on a… On voit bien un premier vent inflationniste que l'on constate tous au jour le jour. Il y a, ceci dit, des vents désinflationnistes qui vont continuer à souffler sur l'économie mondiale. Peut-être un peu moins puissants que ce qu'on avait pu anticiper au cours des dernières années, mais ils sont toujours là. Alors, quels sont-ils ? D'une part, on observe que nos économies sont dominées par des services. Et dans ces services, le taux de syndicalisation était plus faible, il y avait moins de pouvoir de négociation des salariés. Donc, la force désinflationniste qu'on a connue au cours des dernières décennies ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors, ceci dit, attention à cet argument, parce que ce qu'on voit sur la période récente, c'est que dans de nombreux services, il n'y a pas assez d'offres de main-d'œuvre. Et par conséquent, le pouvoir de négociation est peut-être en train, des salariés est peut-être en train de monter, ce qui risque de provoquer des hausses ou de générer des hausses de salaire. Il y a évidemment la digitalisation croissante des services qui, ça va probablement exercer une pression désinflationniste dans les décennies qui viennent. Il y a le vieillissement de la population dont l'impact est ambigu, mais disons que s'il conduit à plus d'épargne, il peut être jugé d'une certaine façon comme étant désinflationniste. Il y a aussi le fait que le niveau des dettes est particulièrement élevé. et la dette ne va pas pouvoir continuer de croître. Donc les stratégies de désendettement, que ce soit des acteurs publics, des gouvernements ou des ménages et des entreprises, ce sont des facteurs qui devraient être désinflationnistes. Mais en face de ça, on comprend qu'il y a d'autres vents très porteurs pour l'inflation. Les grands investissements auxquels on doit procéder pour financer la transition énergétique. Il y a la transition énergétique elle-même qui va s'accompagner d'une augmentation des prix des matières carbonées. Donc, il y a encore quand même de nombreux facteurs qui sont inflationnistes. Et donc, il faut s'attendre en fait à des à-coups sur l'inflation. Pas nécessairement une augmentation généralisée et durable du niveau des prix, mais des à-coups sur l'inflation avec des chocs sur les prix relatifs. Il y a des prix des certains biens qui vont monter beaucoup et d'autres qui resteront probablement contenus. Donc, c'est une visibilité, en effet, bien amoindrie, j'ai envie de dire, sur l'environnement en général des prix dans les années qui viennent.
Est-ce qu'on peut justement terminer, peut-être Didier, vous avez déjà un petit peu évoqué, mais en guise de synthèse, terminer sur ces facteurs qui vont, à terme, durablement influencer l'inflation ?
Alors, dans les facteurs qui vont… Alors, premièrement, l'attitude des banques centrales. Ouais. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour ancrer les anticipations d'inflation ? De notre point de vue, elles vont sans doute… Alors, dans un premier temps, il y a une séquence très dure de politique monétaire, de montée des taux d'intérêt. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on va voir en Europe. Mais de notre point de vue, les banques centrales vont très vite voir la pression qui existe sur l'activité économique, sur la croissance, la montée du chômage, notamment si on tombe en récession, je pense à la zone euro, c'est un risque non négligeable, qui donnera moins de marge de manœuvre aux banques centrales pour monter leur taux d'intérêt. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément, voir jusqu'où les banques centrales sont prêtes à aller pour ancrer les anticipations d'inflation. Il y a ensuite des politiques de soutien des États aux revenus des ménages. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ont fait les gouvernements pendant la crise
COVID, ouais.
Parce que ce ne sera pas du coup à qu'il en coûte.
Ouais. Hein.
Mais en revanche, peut-être des mesures très ciblées qu'on a commencé à voir visant à protéger les ménages les plus vulnérables, les entreprises les plus vulnérables. Donc, on va vers des stratégies beaucoup plus ciblées qui visent en fait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, à éviter qu'on rentre dans ce qu'on appelle un mécanisme auto-entretenu avec des effets de second tour, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'aide et d'État pour les ménages les plus vulnérables ou les entreprises les plus fragiles, ça veut dire qu'au final, il y aura davantage de demandes d'augmentation des salaires et on rentrerait dans un choc type années 70 avec ce qu'on appelle beaucoup à la fois un ralentissement de la croissance et une inflation qui n'est pas sous contrôle. Donc, ce qui peut aujourd'hui… Alors, on voit bien que sur le commerce mondial, on aura une période beaucoup moins porteuse. Il faut plus attendre. C'est la fin de la grande mondialisation, et on a eu une grande désinflation qui a été induite par ce qui se passait notamment en Asie au cours des dernières décennies, en Chine. Là, c'est la fin de la grande mondialisation. C'est pas pour autant la fin de la mondialisation. On va observer des re-régionalisations.
Mais on va relocaliser. Voilà, certaines productions, notamment celles qui sont jugées stratégiques, j'imagine.
Exactement, ouais. C'est la thématique en effet de l'autonomie stratégique, relocaliser, voire re-régionaliser, rendre les processus de production plus résilients, tout cela a un prix et peut se traduire en effet à court terme par une pression inflationniste. Il faudra vraiment regarder pour connaître de nouvel équilibre inflationniste, ce que aussi les gouvernements sont prêts à faire dans la durée. Il est probable qu'on entre dans une période qu'on appelle une période de dominance budgétaire, au sens où les banques centrales sont sous contrainte, les niveaux de dette sont très élevés, notamment les dettes publiques, les banques centrales devront d'une façon ou d'une autre être à la manœuvre pour maintenir des conditions monétaires accommodantes. Sinon, le prix à payer sera une récession très marquée. Et c'est là le débat aujourd'hui qui oppose les économistes sur la bonne façon d'ancrer les anticipations d'inflation, avec une question qui est posée, est-ce qu'une récession est le prix à payer, entre guillemets, pour éviter que l'inflation ne dérape durablement. Et cette question n'a pas encore reçu de réponse tranchée.
Oui, parce que c'est la question. Didier, on avait le sentiment pendant toutes ces années que finalement le pouvoir des banques centrales était presque sans limite, qu'elles arriveraient toujours à trouver une solution pour nous tirer de là, pour tirer les marchés, notamment, il faut le dire aussi. Là, on voit bien que cette fois-ci, ce ne sera pas possible. En tout cas, ce ne sera pas elles seules qui vont faire le job.
Non, c'est très clair. Les banques centrales, là, doivent d'abord ancrer les anticipations d'inflation. Il leur est nécessaire de remonter les taux d'intérêt parce que les niveaux d'inflation sont trop élevés. Donc, elles font leur métier. Jusqu'où sont-elles prêtes à aller comme je le disais, sont-elles prêtes à provoquer des récessions? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Mais elles n'ont clairement pas les mêmes degrés de liberté que lors de la crise du Covid. Mais elles en ont encore un peu et elles peuvent encore mettre en place certains instruments pour éviter l'augmentation de ce qu'on appelle la la fragmentation financière en zone euro. Donc, il reste encore quelques outils techniques pour les banques centrales qui ne sont pas incompatibles avec la maîtrise des prix pour faire que la situation, j'ai envie de dire, qu'on passe cet épisode particulièrement douloureux sans récession majeure.
Alors, on arrive au terme de cette présentation. On avait eu, Didier, des questions, notamment au moment de l'inscription. Je pense qu'il y en a une de Philippe qui résume bien la question que beaucoup doivent se poser après cette présentation et même avant. Avec une inflation durablement plus forte, quelles conséquences et quelles décisions à prendre pour l'épargnant? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur dans ce contexte?
Alors, la première élément, c'est qu'il faut être prudent au jour d'aujourd'hui. Mmh. Comme vous l'avez compris, il y a des vents contraires, non seulement sur le niveau des prix, mais aussi sur l'activité économique, et donc sur le profit des entreprises. Donc, quand on regarde l'un des premiers véhicules d'investissement auxquels on peut penser, qui sont les marchés d'actions, la prudence est de mise, car on peut connaître une récession économique et les profits des entreprises, les marges bénéficiaires des entreprises vont être sous pression. Donc, il faut, quand on se positionne sur les marchés financiers, donc là, il est nécessaire de faire appel à des gérants d'actifs, et on est là à Mundi aussi pour conseiller les investisseurs à être le plus agile possible dans cette configuration. Mais la politique de sélection des titres sur lesquels on investit est très importante. C'est-à-dire qu'il faut se positionner notamment sur des entreprises solides, sur des entreprises qui ont les possibilités de répercuter, de naviguer dans un environnement inflationniste. Du côté des emprunts d'État, des obligations, parce qu'il y a aussi beaucoup de placements.
Il y a un vrai sujet là aussi. Hein.
Oui, alors là aussi, c'est très important. Ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que les taux d'intérêt remontaient quand les bourses chutaient. Oui. Et là, les investisseurs et les épargnants n'étaient peut-être plus habitués à cette relation entre marché obligataire et marché d'actions, puisqu'en règle générale, ce qu'on disait, c'est que quand les actions baissaient, quand on avait une correction sur les bourses, eh bien, il y avait une valeur refuge. Les investisseurs allaient, se positionnaient sur les emprunts d'État et obtenaient du rendement et étaient protégés. Ça ne fonctionne plus du tout dans la période actuelle, tout simplement parce qu'on a cet environnement stagflationniste. On a à la fois de l'inflation et un ralentissement de la croissance. Donc, les taux d'intérêt montent simultanément, ce qui veut dire que les prix des obligations baissent au même moment où les prix des actions baissent. C'est ce qu'on a observé depuis le début de l'année. Ça peut être encore le cas. Donc, il y a des possibilités techniques de se protéger contre l'inflation en étant sur des obligations indexées contre l'inflation, sur l'inflation. Mais là aussi, l'agilité doit être de mise parce qu'il n'est pas bon d'investir à tout moment. Donc, il faut regarder aussi de près le type d'investissement qu'on peut faire. Et puis, il y a des investissements dans des actifs réels qui peuvent aussi protéger dans une certaine mesure contre l'inflation. On recherche à l'intérieur des actions des entreprises décotées qui savent naviguer dans un environnement inflationniste et qui ont des bilans sains aussi. Hein. Ça fait partie de la sélection des titres. Donc, attention à l'exposition sur un indice. Hein, il faut faire une sélection accrue de titres. C'est vrai du côté des bourses, des marchés d'actions. C'est vrai du côté des marchés de dette également.
Ouais, on va pas pouvoir se laisser porter par la tendance. Il va vraiment falloir être actif quand je vous écoute, Didier, dans le contexte qui est actuel. Hein, ouais. On avait une question de Marie aussi. On revient un peu sur le versant macro. Est-ce que tous les efforts déployés pour la transition écologique ne risquent pas d'être une source d'inflation supplémentaire, notamment en Europe, la zone la plus engagée sur le sujet?
Ça va être un facteur additionnel de hausse de prix. Et on pense notamment à l'impact sur les prix de l'ensemble des énergies carbonées. La transition énergétique va exiger un surcroît de demande de certaines énergies carbonées à court terme. Et alors même que l'offre va rester limitée en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment ce qui est de l'Europe et quand on réfléchit au prix, quand on pense aux évolutions des prix du gaz notamment. Par conséquent, en effet, les prix de l'énergie vont sans doute rester élevés et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils baissent rapidement. Ouais. Alors ceci dit, ils vont finir par se stabiliser. Il y aura des effets de substitution, comme on dit, qui vont se mettre en place dans la durée. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de durablement inflationniste, mais dans un premier temps, en tout cas, la transition énergétique sera perçue comme étant inflationniste par les agents économiques, tout simplement parce qu'elle va maintenir les prix de l'énergie à un niveau élevé. Et donc, on voit en fait que l'économie mondiale va connaître des successions, entre guillemets, de chocs d'offres. Et donc, c'est un choc additionnel qui augmente la probabilité de voir en effet les salariés demander des compensations salariales, ce qui provoquerait à ce moment-là un emballement et un enlisement dans un terrain inflationniste.
On a une question de Pascal qui est tombée en direct, qui nous dit, en fait, est-ce qu'il est urgent de ne rien faire sur son portefeuille? Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Tout dépend aussi de
la maison de portefeuille. Pas de rien faire, en tout cas d'être particulièrement prudent, D'une certaine façon, il faut savoir aussi ne pas prendre de décision à certains moments en se disant qu'on aura des opportunités peut-être un peu plus nettes dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, il n'est pas urgent de rien faire, mais il est urgent de se faire conseiller et d'être extrêmement flexible. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment, si vous voulez, d'investissement où il faut être doctrinal. Il va falloir être agile et flexible en matière
Pragmatique
d'investissement.
aussi, hein, oui.
Et nous sommes convaincus qu'il y aura des opportunités d'investissement, mais pour dire les choses très nettement, pour un investisseur qui souhaiterait aujourd'hui se positionner à l'achat de façon indiscriminée sur les marchés d'actions, eh bien ce n'est pas le moment. Il y a des opportunités sur certaines valeurs décotées, mais compte tenu de nos anticipations sur la croissance économique qui va rester sous pression, du risque de récession en Europe, il n'est pas, ce n'est pas le moment aujourd'hui d'être agressif en matière de placement financier. Sélection des titres et demander conseil à des investisseurs avertis et rester flexible. Je crois que ce sont les maîtres mots qui guident notre allocation d'actifs.
On avait une question de Fabien aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé des obligations, des emprunts d'État. Il nous explique qu'on parle beaucoup de remontée des taux pour les États, donc la dette souveraine. Mais en ce moment, est-ce que c'est si grave, puisque avec la forte inflation, finalement, les taux réels, donc corrigés de l'inflation, restent eux quand même assez largement négatifs?
Alors ça, c'est un argument qui est à double tranchant. Je comprends l'argument, hein. C'est vrai que les taux d'intérêt réels, quand vous enlevez au taux d'intérêt nominaux l'inflation, ils sont en territoire négatif. Et vous avez certains économistes, notamment outre-Atlantique, qui disent que la seule façon de contrôler le niveau d'inflation, c'est de pousser les taux d'intérêt réels en territoire positif, c'est-à-dire d'augmenter très fortement les taux d'intérêt nominaux. Donc, auquel cas, mécaniquement, si vous voulez, vous auriez un ralentissement, voire une récession, je pense notamment à l'économie américaine. Alors, du côté de la zone euro, comme je le disais, on a une pression sur l'activité économique qui est très forte. On est au bord d'une récession en moyenne du côté de la zone euro, d'une récession technique. Et dans ces conditions, on anticipe que la Banque centrale européenne ne pourra pas réellement délivrer le durcissement monétaire qui est attendu aujourd'hui pour les marchés. Et en effet, les taux d'intérêt réels vont rester sans doute négatifs, ou en tout cas très faibles, ce qui d'une certaine façon va laisser quand même un peu de marge de manœuvre à court terme aux États pour venir en aide de façon ciblée aux ménages les plus fragiles ou aux entreprises qui en ont besoin. Pas avec les mêmes marges de manœuvre que lors de la crise du Covid, mais il reste quand même quelques marges de manœuvre. On n'est pas, en tout cas, dans la situation qui prévalait au moment de la crise de l'euro en 2010-2012, hein, quand on voyait des taux d'intérêt qui étranglaient les États. Là, on voit que les taux d'intérêt payés effectifs sur la dette, même s'ils vont tendance à, il va avoir tendance à s'accroître, resteront inférieurs à la croissance du PIB, ce qui veut dire techniquement que le ratio dette sur PIB va rester, va pas monter cette année. Donc ça, c'est un élément technique, mais qui fait penser qu'il y a un peu de marge de manœuvre pour les États pour mener des politiques ciblées et éviter les effets de hausse généralisée des salaires ne se matérialisent.
On a une question de Stéphane aussi. Conseillez-vous d'investir sur les ETF malgré l'inflation élevée? Quand je vous écoute, Didier, c'est plus là où justement l'ETF qui, j'explique pour les gens qui connaissent moins, qui va répliquer un indice sans discrimination, justement, est peut-être moins indiqué, où il faut faire un choix un peu plus sélectif dans cette période.
Ah ben, je crois qu'il faut que vous vous rapprochiez de nos équipes commerciales. Il y a une offre d'ETF qui est vertigineuse et qui permet en réalité, les ETF, ce n'est pas uniquement des placements sur les marchés d'actions. Vous pouvez aussi avoir des ETF placés sur les marchés obligataires, sur des obligations indexées sur l'inflation. Par conséquent, il y a toute une gamme d'ETF qui permettent de répliquer en effet certains indices, qui permettent de se positionner et de naviguer dans un terrain inflationniste.
Voilà, donc c'est une solution possible, Stéphane. Merci beaucoup, Didier, pour cette conférence. On arrive à son terme. J'espère qu'on a fait le tour, en tout cas qu'on a bien décrypté pour vous les différents mécanismes de l'inflation. Et puis, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le stand d'Amundi pour Bourse Live, les rencontres. Merci beaucoup, Didier.
Merci, Laurent. Bonne
Et
journée.
voilà, c'est fini pour cette webconférence, mais restez avec nous, le programme continue sur Bourse Live. C'est dans 15 minutes.